Nous allons donc continuer notre réflexion sur l'au-delà en parlant aujourd'hui de cette réalité mystérieuse du purgatoire, une vérité à laquelle l'Église a cru depuis toujours, mais qui est devenue un dogme à un certain moment au Concile de Florence en 1431. D'abord tout de suite une difficulté sur laquelle butent beaucoup d'intellectuels aujourd'hui, parfois même des théologiens. Comment pouvez-vous dire, monsieur l'abbé, que le purgatoire dure plus ou moins longtemps? Les personnes qui ont quitté ce monde ne vivent plus dans le temps, elles vivent dans l'éternité. Alors comment le purgatoire pourrait-il durer plus ou moins longtemps? C'est ridicule. Non, Dieu s'arrange pour qu'au moment de la mort, les âmes soient immédiatement purifiées, comme dans un clin d'œil, de tout ce qui les empêche de partir dans le ciel. Il y a toute une littérature qui vous dit ça aujourd'hui, mais c'est contraire à l'enseignement de l'Église. Hein? Non, le purgatoire peut durer plus ou moins longtemps, à preuve ce que Lucia, la voyante de Fatima qui vit encore comme carmélite dans un carmel de Coimbra, au Portugal, ce que Lucia a entendu lorsque la Sainte Vierge lui est apparue pour la première fois le 13 mai 1917. Lucia a demandé à Marie, « Puisque vous venez du ciel, madame, vous pourriez nous donner des nouvelles des deux personnes qui travaillaient à la maison, qui faisaient de la couture avec maman il y a quelques années et qui sont mortes. Maria des Neves, elle est au ciel, et Amélie, elle est encore au purgatoire. » Alors, l'Église ne vous oblige jamais à croire à tout ce qui est dit dans une apparition. Elle ne vous oblige même pas, sous peine d'hérésie, à croire aux apparitions de Lourdes, de Borin ou de Fatima. Mais ce sont quand même des indications intéressantes. Et nous verrons tout à l'heure que lorsque les âmes du purgatoire se manifestent, elles se manifestent en disant qu'elles sont encore au purgatoire, et puis au bout d'un certain temps, on dit « Merci d'avoir prié pour nous, nous sommes maintenant au paradis. » J'y reviendrai tout à l'heure, évidemment, sur ce mystère sur lequel butent tous les intellectuels depuis toujours. Alors, les théologiens du Moyen-Âge ont inventé un mot pour exprimer ce temps intermédiaire entre le temps que nous connaissons maintenant et l'éternité. Ils ont parlé d'evum, a-evum, a-e dans l'eau, v-u-m. Non, ce n'est pas le temps, ce n'est pas encore l'éternité. Alors, nous allons d'abord nous rappeler que les païens de tous les temps vénèrent leur mort et craignent leur mort, tandis que les chrétiens prient pour leur mort. Vous savez que si vous êtes en contact, par exemple, avec des missionnaires qui sont allés longtemps en Afrique noire, que les animistes passent leur temps à craindre les défunts. Grand-mère vient de mourir. Il faut surtout mettre tous les jours, ou au moins une fois par semaine, un petit gâteau de mil près de sa tombe pour qu'elle ne nous embête pas. Dans les religions primitives, on passe son temps à craindre les esprits. Et notez qu'il y a, malheureusement, encore des chrétiens qui vont sur la tombe de leur mort aux environs de la Toussaint dans cet esprit superstitieux. Si on ne met pas un gros bouquet de fleurs sur la tombe de la tante, il va nous arriver des histoires. Il faut quand même lui montrer qu'on pense à elle. Sinon, qu'est-ce qui va nous arriver? Des milliards de gens avant nous et des milliards après nous pensent comme cela. On vit dans le monde des esprits et on passe son temps à craindre les esprits. Les esprits, les ancêtres sont pas gentils. Imaginez la libération de ces animistes lorsqu'ils découvrent l'évangile. Dieu est foncièrement bon et il n'y a aucun défunt qui nous veut du mal. Et la religion, au lieu de passer son temps à craindre les esprits, passe son temps à aimer Dieu qui nous aime infiniment. C'est une libération extraordinaire. Donc, nous n'avons pas le culte des ancêtres, même si les missionnaires d'aujourd'hui essayent d'inculturer le culte des ancêtres, de montrer ce qu'il peut y avoir de bon, mais justement ne pas le faire dans cet esprit superstitieux de crainte. Ce ne sont pas seulement les esprits des ancêtres qu'ils craignent, mais si l'esprit du fleuve, de la forêt, si un enfant a été frappé par la foudre, on va désormais mettre quelque chose au pied de la stèle censée représenter l'esprit du fleuve pour l'amadouer. Et dans les religions primitives, on passe son temps à amadouer les esprits. Tandis que nous affons que les anges sont là, que nos défunts prient pour nous. Il y a une joie de contact avec l'invisible qui est tout à fait différente. Vous savez aussi que dans toutes les villes du monde, ici sans doute comme ailleurs, les jeunes passent, un certain nombre de jeunes passent une partie de leur loisir le mercredi après-midi à faire tourner les tables, à faire du spiritisme. C'est comme ça dans toutes les villes de France. Il y en a qui le disent d'ailleurs à leurs professeurs pendant les vacances de Toussaint, on va s'amuser à faire tourner les tables et à faire bouger les verres. Et je vous prie de croire qu'il y en a qui se souviennent, adultes qu'ils sont maintenant, de la frayeur terrible qu'ils ont eue lorsque Satan se manifeste dans ce genre de manifestation, hein, et se met à faire bouger les tables d'une façon vraiment surnaturelle. Au fur et à mesure que quand la foi diminue, eh bien, les gens retrouvent leur vieux réflexe de païen. On va essayer de voir si l'au-delà existe. On va interroger les esprits. Certains disent même à leurs professeurs, on va voir si Satan existe. Je prêchais une retraite pendant les vacances de Toussaint dans un Carmel proche de Toulouse. L'archevêque de Toulouse, Émile Marcus, a demandé à tous ses prêtres de mettre en sûreté le Saint-Sacrement pour éviter les profanations d'hosties qui se font dans des messes noires. Et les carmélites au milieu desquels j'ai passé la semaine, eh bien, n'ont pas le Saint-Sacrement dans leur chapelle, mais dans leur oratoire, pour obéir à Monseigneur Marcus. Il faut voir où l'on en est en France. Il ne faut pas être naïf, quoi. Il ne faut pas être catastrophique. Je ne dirais pas ça n'importe où, mais il faut savoir que ça existe. Les profanations d'hosties, ben ça a toujours existé. Mais il y a une certaine recrudescence, ici ou là, hein, des gens qui essayent absolument d'avoir des hosties consacrées pour les profaner dans des cultes sataniques. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que ça n'existe pas. Hein. On en reparlera beaucoup plus alors au mois de janvier, lorsqu'on parlera justement de la réalité très mystérieuse de Satan. Bon, donc nous ne craignons pas les défunts. Nous les prions, car les âmes du purgatoire prient pour nous. C'est une réalité très importante. Le curé d'Ars aimait dire, si l'on savait quelle puissance ont sur le cœur de Dieu ces bonnes âmes du purgatoire, et si l'on savait quelle grâce on peut obtenir par leur intercession, elles ne seraient pas si oubliées. Il faut prier beaucoup pour elles, afin qu'elles prient beaucoup pour nous. Car nous pouvons les aider à se libérer plus vite de leurs peines, mais elles ne peuvent pas prier pour elles-mêmes, elles peuvent prier pour nous. Cette foi dans le purgatoire est une foi très ancienne. Il est vrai que l'Écriture ne prononce jamais le mot purgatoire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les protestants ne veulent pas croire au purgatoire, puisqu'ils veulent que tout soit explicitement dans l'Écriture. Tenez, un grand converti comme Newman, hein, cet anglican qui est passé au catholicisme au XIXe siècle, bon, une grande figure de l'Église, a mis des années pour devenir catholique car il lui fallait accepter tout ce que dit l'Église catholique sur Marie et sur le purgatoire. Et ce grand intellectuel et ce grand mystique a fini par comprendre que le purgatoire et la doctrine mariale de l'Église catholique c'était tout à fait conforme à la tradition et il est devenu paisiblement catholique. Donc, sur quoi se base la foi des chrétiens dans le purgatoire? Sur le fait que, depuis toujours, les chrétiens ont prié pour leurs morts au cours de leur liturgie. Le memento des morts a toujours existé dans la liturgie eucharistique. Et il serait ridicule de prier pour les morts si les morts n'avaient pas besoin de nous. Et c'est donc la liturgie qui est la base de notre foi dans le purgatoire. Dans la mesure où vous pensez que le Saint-Esprit a toujours aidé l'Église à prier correctement, bien vous pensez que si le Saint-Esprit s'est arrangé pour que les chrétiens prient pour leurs morts, c'est que les morts ont besoin de nos prières, qu'ils ont encore parfois à se purifier de leurs tâches, de leurs souillures. Et cette pratique multiséculaire de l'Église s'enracine, elle, dans l'Écriture. Car à la fin de l'Ancien Testament, on voit que les Juifs se sont mis à prier pour leur mort. Dans le deuxième livre des Maccabées, on raconte qu'après la victoire des troupes d'Israël sur l'armée de Gorgias, vers 164 avant Jésus-Christ, au moment de la grande persécution antisémite où les Grecs ont essayé de faire perdre aux Juifs leur identité, notamment en les obligeant à manger du porc, on découvrit sous la tunique de soldats juifs morts sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur, des amulettes, des gris-gris, dédié aux idoles de Jabnia. Il fut évident pour tous, dit le texte sacré, que cela avait été la cause de leur mort. Tous se mirent alors en prière pour demander que leur péché fût entièrement pardonné, et Judas Maccabée, celui qui avait organisé le coup de main, la guérilla contre les persécuteurs, Judas Maccabée organisa une collecte dont le montant fut envoyé à Jérusalem pour qu'on y offrît un sacrifice pour le péché. Ce faisant, poursuit le texte, il agissait fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection, car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Je vous ai rappelé l'année dernière que c'est à cette occasion qu'est né le mouvement des pharisiens qui ont été les premiers à croire fermement à la résurrection des morts. Les sadducéens, les intégristes de l'époque, disaient « Puisque les premiers livres de la Torah ne parlent pas de l'au-delà ou n'en parlent guère, il ne faut pas en parler, il ne faut pas y croire. » Les pharisiens disaient « On a le droit de progresser. L'Esprit de Dieu nous fait comprendre qu'il y a une résurrection et pour les morts et pour les méchants. » Et aujourd'hui, tous les Israélites, tous les Juifs de religion israélite sont pharisiens. Il n'y a plus de sadducéens chez les Juifs. Voilà, donc,